Bonjour à tous et à toutes, au micro Paul-Ouzi Meyerson qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix. Chers auditeurs, vous avez certainement remarqué que les juifs et les non-juifs qui défendent Israël disent souvent que c'est le seul pays démocratique de la région. D'autres personnes objectent que l'on ne peut pas occuper les territoires palestiniens, contrôler militairement sa population et se définir comme un État démocratique. Certains observateurs ajoutent que le clergé juif a trop de pouvoir en Israël, les ultra-orthodoxes vivent au crochet du pays sans contribuer à l'armée. Complétons ces critiques en soulignant que les partis nationalistes religieux des ministres Ben-Gvir et Smotrich ne partagent pas du tout les idées de la déclaration d'indépendance d'Israël qui promet à tous un État juif et démocratique. Ces partis réactionnaires et d'extrême droite, qui représentent autour de 15% de la population, préfèrent la Torah et la Halakha et s'identifient davantage avec le royaume de David. Ils disent « la démocratie, c'est pour les goïms ». Pourtant, les valeurs démocratiques continuent d'animer la majorité du peuple d'Israël, ses institutions d'État et son armée de citoyens. Et j'en veux pour preuve les grandes manifestations qui se déroulent en ce moment à Jérusalem et à Tel Aviv, alors que, depuis 6 mois, une guerre terrible se poursuit contre les terroristes du Hamas et du Hezbollah. Malgré la souffrance des massacres du 7 octobre et le choc de la prise d'otages, des dizaines de milliers d'Israéliens sont encore capables d'exprimer leur opinion dans la rue. Et puis, chers auditeurs, rappelons-nous l'année dernière l'incroyable mobilisation du pays pendant des semaines contre le projet de réforme de la justice quand le gouvernement Netanyahou voulait limiter les libertés publiques dans ce pays. Alors aujourd'hui, qui descend dans la rue et pourquoi? Peut-on vraiment exprimer des revendications alors que se déroulent des combats sanglants et incertains? Nous allons le demander à une personne qui est intimement liée à ces événements. Il s'agit d'Elisabeth Garot. Elisabeth Garot vit à Jérusalem où elle est engagée dans le combat social et politique depuis de nombreuses années. Elle a été candidate au municipal dans la capitale d'Israël. Elisabeth Garot, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Bonjour, voilà. Ouzi, bonjour voilà, à votre
voilà.
équipe.
Vous avez bien entendu les 3 petites minutes d'introduction.
Rien à contester, rien à dire, c'était parfait.
Voilà,
et bien complet.
Voilà, je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord. Alors d'abord, bienvenue dans notre émission. On a un bon quart d'heure devant nous. Veuillez nous expliquer, Elisabeth, qu'est-ce que c'est que ces manifestations qui se déroulent actuellement? Je crois qu'il y en a une à Tel Aviv, il y en a une autre à Jérusalem. Quelles sont les revendications? Qui participe? Donnez-nous des informations sur ces mouvements.
Alors, deux gros groupes peuvent se dégager. Le premier, ce sont les manifestants qui réclament la démission du gouvernement. C'est en prolongation avec ce que vous avez rappelé, qui avait commencé à Balfour il y a déjà 2 ans. Et moi, j'étais allée 56 fois à Balfour. Hein. Mm-hmm. Il y a eu Balfour, ensuite il y a eu pour le départ du gouvernement, ensuite contre ce qu'on a appelé, nous, le coup d'État judiciaire. Et puis ensuite, il y a eu, la protestation contre la façon, non pas protestation contre la guerre, mais la façon dont elle est menée. Ça fait partie des grandes revendications qui se passent en ce moment. Et il y a une forme de convergence des luttes, on va dire, où sont venues se joindre à cette manifestation les personnes qui entouraient les familles des otages et qui ont fait profil bas pendant très longtemps, bien qu'ils aient été, je parle directement des familles des otages, parfois très vilipendées parce qu'elles osaient protester ou elles osaient de réclamer ou elles demandaient quelque chose qui était concret, qui était qu'on s'occupe des otages, et voyant l'inertie gouvernementale ou soupçonnant, on va dire, le gouvernement de ne pas les faire passer en priorité, ils se sont joints aux manifestations. Alors attention, ça ne fait pas l'unanimité parmi les familles des otages, Une partie continue à penser qu'il faut faire profil bas et que finalement le gouvernement a peut-être une bonne idée pour y arriver. Et d'autres qui disent non, c'est pas vrai, on a été complètement abandonnés. C'est trop. Et on réclame la démission du gouvernement en espérant qu'un nouveau gouvernement puisse faire les choses différemment.
D'accord. Alors, combien de personnes participent ou ont participé à ces manifestations ?
Alors hier, ça a commencé dimanche, donc dimanche on est.
Allô, allô.
Bon, on a connu mieux, hein. On a eu Kaplan avec parfois plus de 200 000, 250 000. Bon, on est quand même dans un contexte très particulier en ce moment, c'est quand même la guerre. Donc 110 000, c'est devenant de tout le pays et se mobilisant, c'est pas mal. C'est
d'accord,
pas mal. Et puis ça n'est qu'un début. Hein. Ça va monter en puissance.
Qui sont les gens qui manifestaient et est-ce qu'il y a eu des personnalités politiques qui sont intervenues ?
Alors, les personnes qui manifestent, comme je vous l'ai dit, ce sont des gens donc qui ont toujours manifesté. Hein. Ce sont les gens qui étaient à Balfour et à Kaplan et qui aujourd'hui manifestent. Donc, ce sont pratiquement les mêmes, mais certainement, on fait pas des sondages, on ne sait pas très bien qui vient, quelles sont leurs motivations. Il y a certainement des gens qui se sont rajoutés à eux, qui sont des soldats qui ont été libérés de leurs obligations militaires, des gens qui protestent parce que la situation économique est catastrophique et le fait précisément d'avoir été mobilisé pendant des mois et d'avoir complètement perdu leur business, leur vie, incroyablement endetté et d'avoir le sentiment que le gouvernement ne fait rien pour eux. Il y a aussi des gens qui sont ce qu'on appelle les réfugiés de l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui ont été évacués pour des raisons sécuritaires du sud du pays et du nord du pays, qui ne rentrent pas chez eux, qui ont peur et qui se sentent abandonnés aussi, qui ont évidemment aussi subissent un très gros impact économique sur leurs finances. Donc voilà, il y a toute cette palette de gens. Et puis ensuite, pour les personnalités politiques qui interviennent, alors on va dire que c'est un petit peu comme les autres manifestations, c'est-à-dire personne n'a véritablement un mandat de...
Allô, allô ? Allô ?
Ils savent qu'ils peuvent pas... Oui, vous m'entendez là ?
Oui, oui.
Oui, donc ils savent qu'ils peuvent pas le faire. Donc c'est très... Alors c'est vrai que Yair Lapid est intervenu en tant que chef de l'opposition, mais on va dire que personne ne peut s'arroger la protestation en disant ben, « elle est à moi, elle est à moi et je parle en son nom ».
Il y avait des personnalités de droite, de gauche, du centre
Alors, agréablement surprise de voir le chef de l'Ahistadrout, hein, qui est le plus grand syndicat israélien, qui est pourtant tenu aujourd'hui par le Likoud. Donc, agréablement surprise d'avoir vu qu'il était près de la scène. Bon, évidemment, il n'a pas pris la parole. Enfin, là, il dit que si ça monte en puissance et si les choses ne s'arrangent pas, il soutiendra s'il y a des mouvements de grève. Donc, il était là. Et puis, certainement, voilà, des tas de gens, bon, ils viennent anonymement, ou enfin on les voit, on les connaît, on leur sort la main, ils prennent pas la parole, mais on va dire que tout ce qui est opposition au gouvernement actuel est présent.
D'accord. Alors, Elisabeth Garot, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui sont contre ces manifestations, non pas qu'ils ne sont pas d'accord avec les revendications des citoyens israéliens qui défilent, mais parce qu'ils trouvent que pendant la guerre, ce n'est pas bien, vis-à-vis des Hayalim qui se battent, de manifester. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ils ont la mémoire courte, parce que c'est quand même une tradition, et puis, je veux dire, le mouvement Shalom Arshav l'a payé très cher, puisqu'on se rappelle que pendant la guerre du Liban, un extrémiste de droite avait jeté une grenade et avait tué Emil Grusvag, c'est une occasion de lui rendre, d'honorer sa mémoire, et il avait blessé quand même 9 personnes, donc c'est pas surprenant en Israël, les gens manifestent, et puis je voudrais quand même
leur
dire...
C'est pas forcément des gens d'extrême droite qui disent ne pas
non,
faire
non, bien sûr,
il y a des gens...
Sûr.
Libéraux qui disent on manifestera quand ça sera fini.
Oui, je suis. Effectivement, là, je retiens la nuance. Mais quand même, ce que je voudrais dire, c'est au moment, tout de suite après le 7 octobre, où on a été dans un état catastrophique, tétanisé par ce qui s'était passé, le peuple israélien a été extrêmement raisonnable et extrêmement efficace. Il a compris qu'effectivement le gouvernement restait sur son état de sidération et ne faisait pas les choses. Et un grand mouvement comme Achim Lenishek, les frères et les sœurs d'armes, se sont tout de suite mobilisés. Ils avaient le savoir-faire, ils avaient l'infrastructure pour ça. Ils sont tout de suite allés sur les places des grandes villes, qui pour faire des cartons, qui pour donner de l'équipement pour les soldats, qui pour fournir des sandwichs. Bon, on sait que l'armée, ce sont nos enfants, c'est l'armée du peuple, ils avaient besoin de plein de choses. Ceux qui, par exemple, étaient dans le Golan, c'était l'hiver, il a neigé, ils avaient froid. Donc, on s'est tous vraiment mobilisés, extraordinairement occupés pour aider notre armée et être derrière eux, et pour les soutenir. Et ça, je veux dire, ça ne changera pas, ce sont nos enfants. Donc, encore une fois, je veux dire, on est parfaitement conscient de ça. Mais en parallèle, cela n'interdit pas que ça fait 6 mois, c'est très long. On n'en est pas indemne, les résultats ne sont pas là, qu'on le veuille ou non. Il y a eu des otages qui ont été libérés après des accords. L'armée, elle a réussi à en libérer 2 dans difficulté, mais il en reste encore des dizaines. Il y a encore des gens dont je parlais qui sont les réfugiés de l'intérieur, qui sont des dizaines de milliers. Oui. Il y a des milliers de blessés. Il y a pratiquement tous les jours des morts. Et on a l'impression véritablement que le gouvernement actuel n'a pas de vision, promet à des grands slogans creux, ensemble nous vaincrons, etc. Mais on sait très bien que le Hamas, c'est comme une hydre à plusieurs têtes. On va dans le nord, on rase le nord, la population se déplace vers le sud, alors dans le nord, le Hamas se rétablit. Bon, alors on va peut-être bombarder le sud et puis après le Hamas se mettra dans le sud. Enfin, on a l'impression finalement que c'est cette guerre contre la population, contre le Hamas, mais à l'intérieur de la population gazaoui, nos soldats sont confrontés ça a été la même histoire au Vietnam, en Afghanistan, même si ce sont des superpuissances militaires et très compétentes, face à des guérillas urbaines, c'est extrêmement difficile. Ça fait énormément de pertes, les résultats sont pas très bons, on gagne pas nécessairement, parce que même la Chine, la Russie, les États-Unis ont été battus, ont perdu ces guerres, et nous, on a vraiment ce sentiment qu'on n'est pas en train de gagner, et c'est pour ça que les gens sont dans le désarroi et protestent et réclament un gouvernement qui ait des visions claires, et puis une guerre, il faut savoir la commencer, mais il faut peut-être aussi savoir l'arrêter.
Oui, mais Elisabeth Garot, il n'est pas certain que même s'il y avait un autre gouvernement avec, disons, allez, avançons un nom, Gantz, il y a une politique extrêmement différente.
Peut-être
qu'il y aurait plus de confiance, mais il n'y aurait pas une politique, une stratégie militaire et diplomatique très, très, très différente.
D'abord, il y a, je pense, la volonté chez les Israéliens de se dire que ceux qui ont été incompétents doivent partir, puisque les rapports arrivent régulièrement maintenant et de façon publique, et on sait que la politique du gouvernement actuel, et qui est là depuis très longtemps, a été pendant des années de renforcer le Hamas pour affaiblir l'autorité palestinienne, de façon à ce qu'il n'y ait surtout jamais de règlement du conflit avec les Palestiniens, de création de 2 États. Donc, en plus, on sait très bien que le Hamas a été renforcé à coups de valises de dollars qui transitaient par le Qatar avec la bénédiction du Premier ministre. Donc, aujourd'hui, c'est de notoriété publique. Se rajoute à ça, effectivement, le fait qu'on savait depuis des années qu'il y avait des tunnels, que c'était très dangereux, et on a eu l'impression que, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Ça explique aussi pourquoi les gens du Nord, par exemple, ont très peur de rentrer, parce qu'ils disent, ça fait des années qu'on entend que ça creuse sous la terre et on n'est pas à l'abri d'un nouveau 7 octobre, mais cette fois-ci qui se passerait dans le nord. On prévient le gouvernement, on prévient la police, on leur dit que les tunnels sont tellement grands que des voitures pourraient y passer, et puis finalement on a le sentiment que rien ne se fait, qu'on n'est pas entendu. Donc, et on a l'impression que ce gouvernement ne tire pas les leçons de la guerre, ne s'engage pas véritablement avec une stratégie claire. Nos relations avec les États-Unis, qui est quand même notre premier partenaire, sont dans une situation, mais vraiment, comme je crois, on n'en a jamais vu. Et on se dit, si on a d'autres personnalités, ne serait-ce, on est tellement dépendant aussi quand même des États-Unis, que si on a au moins quelqu'un de présentable à qu'il soit un interlocuteur plus sage, plus raisonné, ben, finalement, ça vaudra peut-être le coup. On n'a pas de solution miracle, mais aujourd'hui, il y a des grands slogans dans tout le pays qui sont à ta HM, ce qui veut dire tu es le chef, tu es coupable. Il faut absolument que ceux, et pas uniquement Netanyahou, mais tous ceux qui ont été impliqués et qui sont vraiment, qu'ils rendent des comptes, ils sont coupables et responsables de ce qui se passe. On ne peut pas toujours dire c'est que le Hamas. Oui, mais gouverner, c'est prévoir. Et
d'accord,
ils n'ont rien prévu.
D'accord. Alors, les manifestants, ils demandent des élections maintenant. J'ai vu les slogans, là. Prichot, Arshav. Pourquoi ne pas attendre la fin de la guerre une fois? Est-ce que ça ne serait pas des meilleures conditions? Est-ce que ça ne serait pas plus raisonnable, plus démocratique d'attendre la fin des combats pour avoir une consultation plus rationnelle?
Ben, disons, si on parle de nouvelles élections, de toute façon, il n'y a aucune raison qu'elles aient lieu sur le plan juridique et, on va dire, constitutionnel, même si on n'a pas de constitution en Israël. Mais enfin, bon, on sait très bien qu'il y a des conditions très particulières. Le gouvernement est là pour 2 ans et plus. Donc, ce sera compliqué de le faire partir. Il faudrait que la coalition
de 64... Oui, parce que même si on n'aime pas ce gouvernement, il est légitime.
Ah, ben absolument. Mais qui va le contester? D'accord. On ne va pas contester. Ben,
Comment le faire tomber?
Ben, par la pression. Il y a eu des exemples dans d'autres pays, en Ukraine, vous vous souvenez, en Pologne et autres, et les révolutions arabes, à force de dire aux gens part, dégage, à force de faire pression. Encore une fois, je veux dire, il y a quelque chose de sidérant pendant la guerre du Liban, pendant la guerre de Kippour, constatant leur échec, les dirigeants sont partis, ils avaient de l'honneur.
Ils ont démissionné.
Ils sont partis, ils ont démissionné. Et là, on voit quelqu'un qui est accroché comme une moule à son rocher parce qu'il a des intérêts personnels, parce qu'on sait très bien qu'il va être en procès, etc. Et qui n'assume rien, qui n'a jamais dit une seule fois qu'il était coupable. On a très peur, on a l'impression que ce sont les lampistes qui vont payer. Et finalement, quelqu'un qui n'assume pas, personne n'est irremplaçable. Il y a plein de gens qui peuvent effectivement prendre le relais. Maintenant, bon, c'est très bien que des élections, c'est pas n'importe quoi, ça se prépare pendant des mois, on fixe une date, ça va prendre plusieurs semaines, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Bon, mais quelque part, on a bien fait les élections municipales il n'y a pas très longtemps, donc rien n'est impossible et rien n'empêchera. Et c'est pas parce qu'il va y avoir encore une fois peut-être une campagne électorale, etc., que le cabinet de guerre ne va pas fonctionner, que les soldats ne seront pas là. Bon, encore une fois, les gens en Israël ne sont pas idiots, ils sont extrêmement responsables, parce que c'est quand même nous et encore une fois nos enfants et la vie de nos enfants qui est en jeu. Donc on ne joue pas, on n'est pas là à faire de la politique politicienne.
Bien sûr. Alors, le temps passe, n'est-ce pas, Elisabeth Garraud? Je voudrais vous poser une question sur les familles d'otages. On a l'impression des fois que dans leur détresse, qu'on comprend très bien, dans leurs angoisses qu'on partage tout à fait, les familles d'otages s'en prennent beaucoup au gouvernement, mais moins au Hamas. Ou plus exactement, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi toute l'énergie qu'ils dépensent tous les jours contre le gouvernement d'Israël, pourquoi ils ne le dépensent pas pour mobiliser l'international, l'opinion, l'ONU, la Croix-Rouge, tout ça, en disant libérer les otages, parce que ceux qui torturent, ceux qui ont pris les otages, ceux qui les détiennent et ceux qui jouent avec eux d'une manière cruelle, se les ramassent.
Ben, c'est un bien mauvais procès, parce que franchement, je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu des protestations, il y en a eu auprès de l'ONU, il y en a eu auprès des organisations féministes, on a vu comment les femmes ont traité de façon totalement désinvolte la souffrance des femmes otages, et ont pratiquement, il a fallu carrément prouver qu'elles étaient maltraitées, violées, etc. Donc je veux dire, non, les otages sont allés absolument partout, dans tous les pays, ils ont vraiment frappé à toutes les portes. Je veux dire, il faut vraiment se renseigner pour voir que partout où ils ont pu essayer de faire entendre leur voix, ils l'ont entendu, évidemment, ils n'ont pas de lien direct avec M. Sinoir, Donc, les responsables du Hamas, évidemment, et puis ils ne peuvent rien négocier avec eux, mais ils savent que la seule personne avec qui ils peuvent parler de façon à ce qu'ils mènent des négociations, c'est le gouvernement en place et son premier ministre. Le problème, c'est qu'ils assistent à toutes les réunions, ce qu'on appelle des vadotes, hein, qui sont à la Knesset, toutes les commissions où ils peuvent essayer de faire entendre leur voix, et je ne sais pas si c'est répercuté en France ou à l'étranger, mais vous êtes effaré par la façon dont on les traite. Il n'y a aucune, je veux dire, vous savez ce qu'on appelle les chauffarim, c'est-à-dire les porte-paroles du gouvernement qui font de la surenchère. Comment oses-tu t'adresser au Premier ministre de cette façon? De quel droit parles-tu de cette manière? Quelle poupée as-tu? Mais je veux dire, ce sont des gens meurtris qui depuis 6 mois ne dorment plus, sont absolument désespérés. Je crois que c'est le pire qui puisse exister, d'imaginer son fils ou sa fille et des enfants. Et des enfants, n'oublions pas, des enfants otages. Et on a l'impression que le gouvernement et ceux qui le sont autour de lui et qui prennent le relais, les traitent avec... On n'était pas habitué à ça. On n'était pas habitué. On avait l'impression que la vie était sacrée. On se souvient dans Tébé et autres. On avait l'impression vraiment que c'était très important même de ramener des corps, ou même de ramener des morts, de les ramener. Et aujourd'hui, on a l'impression que quelque chose a basculé parmi certaines personnes qui finalement, eh bien, en miroir avec ce qui se passe dans la société arabe, considèrent que nos victimes, ce sont nos shahidim, ce sont nos martyrs. Ils meurent pour la sanctification du nom divin. Eh bien, ils sont peut-être déjà perdus. Finalement, ce n'est pas là l'objectif. Et vraiment, ça passe en deuxième, ça passe en deuxième plan. Et donc, les familles des otages sont à la fois meurtries par la situation du monde. On se rappelle de Boko Haram, hein, Blink d'un homme, ramenez-la à la maison. On a l'impression que le monde nous abandonne et que le pays nous abandonne.
D'accord.
Alors vous Elisabeth... imaginez dans l'état, dans lequel ils sont.
D'accord. Alors, Elisabeth, là, le temps est terminé. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous poser une dernière question. Vous me répondez très brièvement. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une crise gouvernementale, une brisure de l'union gouvernementale, c'est-à-dire que quelqu'un se retire du gouvernement, qui se retrouve en minorité parce qu'il voit la situation, un Guy Donsard, et puis que le gouvernement se trouve en minorité, qu'il y ait des élections. Est-ce qu'il peut y avoir un processus comme
ça ? Tout est possible, oui, tout est possible. Là, on est très attentif au problème de la conscription des Haredim. Bon, les Haredim, pour l'instant, du moins ceux qui sont au gouvernement, sont peut-être en train d'hésiter. Faites des engagements, on attend un petit peu la façon dont les grands rabbins vont mobiliser leur base, et il n'est pas certain, il se peut que l'explosion vienne de là.
D'accord.
Il se peut, on attend tout hein, en Israël, hein, c'est le pays de l'incertitude et des étonnements permanents, donc pourquoi pas.
D'accord, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission Elisabeth Garot, et je vous dis
merci
à bientôt sur
à
Radio
bientôt.
Shalom, à une prochaine fois. Alors, chers auditeurs, je vous souhaite bon courage à tous et que des jours meilleurs nous reviennent rapidement. C'était Paul Ouzi-Meyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix.